Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. De nombreux professionnels de santé sont devenus de véritables entrepreneurs et d'autres le voudraient, mais ne sont pas toujours armés pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle Anne-Laure Giraudeau, avocate, a créé Doctopreneur, le club des professionnels de santé qui veulent entreprendre. Il vient d'être réélu à la tête de la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP. C'est le très charismatique Lamine Garbi qui nous évoque les difficultés que rencontrent les établissements de santé privés et le deux poids deux mesures avec l'hospitalisation publique. Et pour terminer l'émission, une naturopathe nouvelle génération qui voudrait dépoussiérer sa profession, Eliane Tangeman de Frenchy Glow, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti. Anne-Laure Giraudeau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine.
Exactement.
Vous avez très longtemps travaillé dans un cabinet international au Luxembourg, c'est bien ça ?
Exactement.
Vous êtes experte en restructuration, en structuration de projets d'investissement pour les professionnels de santé et vous avez cofondé en 2023 le club Doctopreneur avec Maître Sarah Andfou Nana et Agathe Nique, c'est bien ça ?
Exactement.
Il fallait les citer quand même.
Exactement.
Alors, est-ce que fonder une entreprise quand on est professionnel de santé, c'est compliqué ou particulier ? Dans le domaine de la santé, en plus, surtout.
En fait, ça va dépendre un petit peu de là où on part et là où on veut aller. Il faut qu'on comprenne exactement quel est le statut du professionnel de santé qui vient vers nous. Est-ce qu'il est...
La santé, c'est un secteur sensible quand même, avec ses propres règles, avec ses propres...
Effectivement, la santé n'est pas un commerce et donc du coup, on ne peut pas avoir une réponse standard pour tout type de situation. Il faut qu'on analyse la personne qui vient nous apporter un projet. Est-ce qu'elle est indépendante ? Est-ce qu'elle est en contrat salarié ? Est-ce qu'elle travaille pour l'université ? Et il faut qu'on comprenne de quoi on parle, donc quel est le projet, où est-ce qu'on veut aller, est-ce que c'est une activité ad hoc, est-ce que c'est l'activité de demain. Et en fait, en mettant toutes les cartes sur la table, on fait une analyse extrêmement précise par rapport à la personne qu'on a en face de nous et on arrive à lui proposer quelque chose qui peut marcher ou pas en fonction.
D'accord,
ça nous arrive
donc
de dire.
Un médecin peut créer une entreprise.
Si on résume,
tout
oui.
En continuant même son activité de médecin.
Exactement, il peut, oui, effectivement.
Il y a des conditions particulières ?
Oui, effectivement, il y a des conditions particulières, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la médecine n'est pas un commerce, et donc, du coup, on a un certain nombre de règles à respecter. Et,
ok, en gros, il ne peut pas profiter de son patient pour augmenter le chiffre d'affaires de sa boîte.
Pas.
D'accord. Sinon, je vous soigne mal.
Exactement, c'est ça.
Alors, est-ce que le management d'entreprise, etc., c'est enseigné à la fac, à l'université ?
Eh bien, pas du tout.
C'est bien dommage.
Oui, c'est bien dommage. Non, les études de santé sont assez longues et elles sont extrêmement techniques et portées sur la connaissance scientifique. Et donc, du coup, tout l'aspect entrepreneurial est complètement négligé à l'heure actuelle. Alors, ça va peut-être changer avec les évolutions législatives qui sont dans le pipe. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, on a été confrontés à un vrai problème au cabinet. C'est-à-dire qu'on avait des prospects qui venaient pour nous raconter les projets qu'ils avaient. Et en fait, on se rendait bien compte, étant au début du projet, à la charnière, de tout ce qui se passe, qu'il y avait un côté psychologique qu'on n'arrivait pas à couvrir dans le cadre de nos réunions. Et c'était le côté je n'arrive pas à rentrer dans le costume de l'entrepreneur. J'ai peur, je pense que je suis seule et surtout je ne sais pas de qui m'entourer. Et donc c'est un peu comme ça qu'est né ce projet de Doctopreneur.
Il n'y a pas de diplôme d'université qui sont apparus récemment, non ?
Non, pas pour l'instant, pas à ma connaissance.
Alors, et c'est donc la raison pour laquelle vous avez créé Doctopreneur, qui est dédié aux professionnels de santé, c'est bien ça ?
Exactement. Donc, c'est un club exclusif. Seuls les professionnels de santé peuvent y entrer.
Quel que soit leur profession, médecin, infirmier, kiné, pharmacien.
Non, il n'y a pas de restriction là-dessus. La seule condition est d'être professionnel de santé. Et donc, du coup, pour avoir ce côté fermé, on diffuse uniquement nos interviews, parce que on fait un contenu audio de podcast sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, pour rentrer dans le groupe, il faut montrer patte blanche.
D'accord.
Et à ce moment-là, vous avez accès à ces retours d'expérience de la part de professionnels.
D'accord. Donc, quelle est la mission plus précise de Doctopreneur ?
Nous, c'est de casser les barrières entrepreneuriales pour les professionnels de santé. Voilà, ça c'est notre objectif.
Et leur montrer que tout est possible.
Leur montrer que c'est possible, leur montrer que ça se fait pas en deux temps ou trois mouvements, que ça nécessite parfois des réajustements. Leur montrer que parfois il y a des difficultés, qu'il faut dédier du temps à son projet, qu'il faut s'investir dedans pour qu'il arrive à bout. Mais et donc du coup, au travers de ces audios, on donne du confort en fait à nos professionnels de santé qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Et en plus, après, derrière, donc, vous êtes force de proposition, de conseil pour ces professionnels de santé.
Exactement. Donc,
plus des médecins, non, en plus. Vous avez plus de médecins que d'autres professionnels.
Au cabinet, plus des médecins, mais effectivement, après, on n'est pas du tout fermé sur le type de profession.
Ouais, c'est vrai que le médecin, il est bon en médecine, mais il est peut-être moins bon en...
Alors, le médecin est bon en médecine, il n'est pas forcément toujours bon en entrepreneuriat, mais surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai burn-out dans la profession médicale, que vous connaissez certainement plus que moi. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est une alternative. Donc, garder la médecine et peut-être faire autre chose à côté, mais tout en continuant l'activité.
Tout en continuant l'activité, d'accord. Ouais. Mais vous avez des professionnels de santé qui veulent carrément changer d'horizon.
Ouais, on a aussi ça. Ouais, effectivement, ça arrive. Hein. On n'est pas là pour ouvrir un débat politique sur ce qui se passe en France, mais effectivement, il y a un vrai sujet.
Donc, c'est plus complémenter son activité que changer d'activité, de manière générale.
Majoritairement, c'est ce qui va se passer, oui, effectivement.
D'accord. Ouais. Alors, donc, dans ce club, vous proposez donc des interviews.
Exactement. Pour l'instant, on a démarré par du contenu audio, essentiellement. Donc, on a des retours d'interviews. Alors, on diffuse chaque semaine l'interview soit d'un professionnel de santé qui a entrepris, soit quelqu'un de l'écosystème entrepreneuriat du professionnel de santé.
Peut-être quelqu'un qui a permis à un professionnel de santé de se lancer dans l'aventure.
Exactement. Oui. Voilà. Et donc les interviews durent en général sur l'écosystème, on est plutôt autour de 20-25 minutes. Et chez les professionnels de santé, l'interview peut durer entre 50 minutes à 1h20, 1h30. Ils ont beaucoup de choses à raconter.
D'accord. Donc c'est sous forme de vidéo, de podcast aussi
Pour l'instant, on n'est que sous format audio.
Ouais. Que sur format audio, donc des podcasts.
Exactement.
Et donc il faut montrer patte blanche et.
Il faut montrer patte blanche pour pouvoir les écouter. Ça, c'était vraiment pour nous très important pour donner un côté confidentiel à l'interview parce que c'est pas encore monnaie courante. Les gens ont besoin de se sentir en confiance. Et puis parce qu'en fait, on fait pas ça pour être le podcast de demain. On est vraiment là pour offrir à une population cible un moyen d'accomplir une mission qu'il a.
Mais c'est... Alors évidemment. Le médecin, il y a pas mal de lacunes hein, pour se lancer dans le... Quelle est la principale, celle que vous rencontrez le plus?
Je dirais accepter le fait de devenir chef d'entreprise et parler d'argent. L'argent est un tabou.
C'est vrai.
Et donc, dès qu'on parle de charges, rentabilité, projets qui sont... Souvent, c'est des projets assez long terme où il faut parler de fiscalité, de TVA et autres. En fait, on sent qu'il y a des vrais blocages qui sont assez profonds, probablement liés à notre éducation par rapport à l'argent. Et donc, on a un vrai travail à faire au-delà du juridique hein, pour accompagner nos prospects dans leur aventure entrepreneuriale.
Et là, vous êtes là pour briser, évidemment, ces tabous.
L'objectif, c'était ça. Hein, c'était, nous, on vient sur la partie juridique en proposant la structuration du projet d'investissement. Mais ça va au-delà, en fait. La discussion, elle va bien au-delà. Et il y avait un côté plus psychologique sur lequel on n'est pas coach, on n'est pas là pour les prendre par la main. Donc, on leur propose quelque chose aujourd'hui aussi pour leur montrer que ça nous intéresse et que ça nous concerne. Nous, c'est une vraie mine d'or pour nous pour comprendre un peu quelles sont les difficultés, en fait, de nos prospects aujourd'hui dans le passage à l'acte en fait.
Est-ce que vous me pistonnerez pour entrer dans votre club ou pas?
Bien sûr.
C'est pas pour ça que je vous ai invité, bien sûr que non.
Non.
Merci beaucoup Anne-Laure Giraudeau, merci beaucoup. On va changer de sujet avec Lamine Garbi qui est le président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
BFM Business, Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Lamine Garbi, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à nouveau.
Merci.
Vous êtes un habitué de l'émission Check-up Santé. Vous venez d'être réélu à la tête de la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP, que vous dirigez depuis 2014.
Le temps passe.
C'est que le temps passe, non, et c'est surtout que vous êtes apprécié.
Et quatrième mandat réélu, oui. C'est une fierté, un honneur d'avoir la confiance de ses pairs. Et oui. C'est 1000 cliniques qui votent, 1000 cliniques.
Oui, alors surtout dans un contexte hein, pour le moins compliqué pour l'hospitalisation privée. Mais on va y revenir. Combien d'établissements privés
La Fédération, c'est 1000 cliniques. Chaque année, on prend en charge 9 millions de patients. Et ce que peu de gens savent, 3 millions de patients en urgence. Et quand vous venez en urgence chez nous, vous n'avez rien à avancer. Petit message de rappel.
Bien sûr.
Venez en urgence.
C'est vrai privée. Que le réflexe est d'aller dans
toujours l'hôpital du coin, qui est saturé. Donc voilà, on peut être une offre complémentaire. Nous sommes une offre complémentaire.
Alors je disais que le contexte est pour le moins compliqué pour l'hospitalisation privée, mais il y a rien de nouveau.
C'est une
nouveauté. On en parle depuis de nombreuses années.
On a perdu, je pense, l'esprit Covid. L'esprit Covid qui était la complémentarité et surtout l'équité avec le secteur public. Je parle des relations du Ségur 1, du Ségur 2 pour nos soignants. Voilà, il y avait vraiment, je dirais, un partenariat. Aujourd'hui, on l'a perdu.
Vous avez quand même montré votre action.
Bien sûr, en Ile-de-France, 25% des patients en réanimation étaient pris en charge par le secteur privé. Donc oui, les chiffres sont là. Mais deux exemples. La mesure prise par notre Premier ministre, Mme Borne. Elle a revalorisé les majorations de nuit et de week-end pour les soignants, les infirmières. C'est bien que les infirmières touchent plus la nuit et le week-end. Évidemment. Pénibilité. Mais on exclut. Est-ce que c'est normal? Non. Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, aussi de la fonction publique hospitalière, a revalorisé l'indice de la grille de la fonction publique. Pas nous. Pas la nôtre. Donc voilà, on sent une dichotomie, je dirais, et un petit peu, je vais employer un mot fort, une maltraitance du secteur privé, et franchement, on le mérite pas.
Deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures, on mérite pas cette
agression. Alors, il y a un phénomène qui s'est surajouté, évidemment, c'est l'inflation qui a flambé ces dernières années.
Bien sûr, on a calculé nos budgets.
Mais qui touche aussi bien le public que le privé.
Oui, et on est ensemble. Ouais. On est ensemble sur des revendications, c'est 1,5 milliard qu'il faut pour la fin de l'année pour arriver simplement à couvrir nos charges. Nos budgets ont été construits sur une campagne tarifaire parce que nos tarifs sont encadrés. Si nous avions des tarifs libres, il n'y aurait pas de difficulté. On ferait comme les assureurs, comme les mutuelles, on monterait de 5-10% nos tarifs. On ne peut pas. Nos tarifs ont été réévalués au mois de mars à hauteur de 3-4% en moyenne. L'inflation, c'est plus 10. Donc comment voulez-vous arriver à équilibrer un budget, un compte d'exploitation avec de plus en plus de patients? Parce que l'hôpital public a du mal à retrouver le chemin des blocs opératoires. Et c'est le président, mon homologue, qui le dit lui-même, Arnaud Robinet, ils n'ont pas retrouvé l'activité d'avant Covid-2019. Donc cette activité, c'est nous qui la prenons en charge.
Ouais. Et pourtant, c'est l'État qui détermine les ressources financières des établissements.
Bien sûr. D'accord. Bien sûr, nous sommes tarifs encadrés. On ne peut absolument pas faire varier nos budgets.
Alors, comment peut-on compenser ces effets de l'inflation? Il y a eu un PLFSS récemment.
Oui, il y a un PLFSS qui n'en a pas tenu compte. Ceci dit, le PLFSS, c'est 260 milliards. Voilà. On était à 190 milliards avant Covid, donc c'est une somme énorme. Et je suis certain que nos ministres, parce qu'il n'y a pas que le ministre de la Santé qui veut nous aider, l'ensemble des ministres à Bercy vont trouver une solution pour débloquer des crédits. Ce sont des crédits non reconductibles. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment... Et ils ont pris la mesure, notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a pris la mesure de la difficulté et lui-même le dit en public, il ne sera pas le fossoyeur de l'hôpital public.
Il y a de l'espoir.
Toujours. Sinon,
bien sûr.
On ne
continue pas. Parce que c'est vrai que la situation financière des établissements privés est plutôt...
30% sont en déficit.
Fragile.
Et si, 30%. Et s'il n'y a pas, je dirais, d'aide immédiate pour le social et pour l'inflation, c'est plus de 50% des copains qui seront en difficulté majeure. Et ces difficultés, ça veut dire quoi, concrètement? Parce que c'est important de le savoir. Ça veut dire fermeture de services, fermeture d'établissements, regroupement et paupérisation des territoires. Donc c'est un maillage, de proximité.
On aggrave la désertification médicale.
Exactement.
Mais vous dites que les organismes financiers sont réticents à vous accompagner. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, notre secteur devient un secteur à risque.
Parce que vous empruntez, c'est ça?
Bien sûr. On emprunte tout simplement pour nos bâtiments, pour nos constructions, pour nos investissements. Chaque année, c'est plus d'1 milliard d'investissements qui sont menés dans la branche. 1 milliard. Et on a du mal aujourd'hui à se financer parce que les taux d'intérêt sont importants et le secteur est à risque. Et vous connaissez les banquiers, quand un secteur est à risque, il y a moins de monde qui se presse à la porte pour nous aider. Voilà, il n'y a plus personne.
Autre sujet majeur, c'est la pénurie de personnel.
Bien sûr.
De santé.
Bien sûr. Il y a pénurie d'infirmières, d'aides-soignantes.
Ce sont surtout les infirmières.
Infirmières, aides-soignantes, mais médecins. Mm-hmm. Médecins. On a des difficultés, même dans des belles régions attractives, je dirais comme la mienne qui est le sud de la France, on a du mal à recruter des médecins. Donc j'imagine sur les territoires en difficulté, en tension, c'est notre préoccupation. Et c'est vrai que la revalorisation des salaires de nos collaborateurs, 260 000 collaborateurs tout de même dans notre branche, est fondamentale pour arriver à retrouver de l'attractivité.
Alors, on a parlé tout à l'heure des gardes de nuit, des situations un peu exceptionnelles. Sinon, d'une manière générale, les salaires de l'hospitalisation privée, est-ce qu'elles sont au même niveau que les salaires de l'hospitalisation publique ?
Je pense que c'est le seul secteur en France où le privé paye moins bien que le public. 10% d'écart entre une infirmière publique et privée. Donc, le public paye mieux parce que la revalorisation, je dirais, de l'État, on l'a vu tout à l'heure avec Mme Borne et M. Guérini, en fait, l'État, tout simplement, il joue son rôle d'actionnaire. Il joue son rôle d'actionnaire. Donc, il renfloue les caisses des hôpitaux publics et il revalorise les conventions collectives. Nous avons mené, avec les syndicats, la CFDT et l'UNSA, la refonte totale de notre convention collective. C'est magique. On passe, je dirais, de 50 coefficients à 10, de 700 métiers à 50, sans rentrer dans le détail, mais une convention qui va donner de la lisibilité, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de coefficients en dessous du SMIC. On a été d'ailleurs appelé par notre ministre Olivier Dussopt. Mais nous avons signé avec les organisations syndicales, maintenant il reste à le financer. Si l'État ne nous finance pas cette convention, nouvelle convention collective, dite la NAN 33, on ne pourra pas la mettre en œuvre et on aura toujours ces écarts.
Donc, vous l'évaluez à quel montant cette...
Alors nous sommes à trois. Il y a le CINERPA, donc les maisons de retraite, il y a le thermalisme et la FHP. Mm-hmm. Et pour l'ensemble des trois, c'est 700 millions d'euros que le gouvernement doit mettre sur la table pour faire en sorte que l'attractivité de nos collaborateurs revienne.
Mm-hmm. On retrouve aussi dans les actes aussi, qui sont pratiqués parfois, un accouchement n'est pas... payé au même prix, rémunéré au même prix que dans le privé que dans le public.
C'est toujours compliqué de se comparer, mais en moyenne, 20-30% des tarifs du privé sont inférieurs à ceux du public. J'additionne bien sûr les honoraires médicaux, la radiologie, la biologie. Je compare, je dirais, acte par acte.
Ouais. Est-ce que vous avez plutôt un sentiment d'abandon ? Vous êtes pessimiste, fataliste ou il y a quand même quelques notes d'espoir ?
Pessimiste, non. Sinon,
surtout que vous êtes là pour défendre la profession.
Voilà, je ne ferais pas du syndicalisme si je n'avais pas l'entrain, la motivation. Exactement. Et inlassablement de porter nos messages qui sont l'inclusion des cliniques privées dans le service public hospitalier. Et plutôt que de parler de service public hospitalier, je préfère parler de service public en santé. Mmh. Voilà. Et je veux retrouver cette équité. Et j'ai une phrase qui est simple, qui est de dire un même patient, d'accord, un même soin, les mêmes contraintes que l'hôpital public, parce que nous voulons prendre les mêmes contraintes de permanence des soins, d'accessibilité, mais bien sûr un même tarif pour ce même patient. C'est un paquet.
Et ne pas oublier la qualité des soins qui sont prodigués dans l'hospitalisation.
Alors, vous savez, la qualité, on n'a pas à rougir.
C'est encore plus contrôlé peut-être que...
Oui, parce que nous sommes certifiés par la Haute Autorité de Santé. 86% des établissements sont certifiés. 36% avec une mention très bien, pour simplifier. 36% mention très bien. Donc, je suis fier de la profession parce que le juge de paix, c'est quand même la Haute Autorité de Santé qui nous contrôle tous les 4 ans et de manière très pertinente parce qu'ils viennent dans nos établissements pendant une semaine. Donc, il n'y a pas de doute sur la qualité de l'évaluation.
Eh bien, merci Lamine Garbi et bravo pour votre combat. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission Check-up Santé.
Merci bien.
Merci. Donc, on va à présent accueillir Eliane Torjman de Frenchy Glow qui veut dépoussiérer la naturopathie.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Eliane Torjman, bonjour.
Bonjour.
De Frenchy Glow. Vous êtes naturopathe certifiée, une naturopathe quand même extrêmement suivie sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous trouvez que les Français se dirigent plus, à l'heure actuelle, vers des médecines plutôt alternatives ? Toujours évidemment en complément de la médecine classique.
Oui, on note un engouement pour les médecines alternatives, surtout depuis le Covid, mais bien sûr, comme vous le disiez, toujours en complément de la médecine classique.
Pourquoi ? Parce que pendant Covid, les gens sont restés chez eux, donc ils avaient plus besoin de communiquer ou de...
Oui, puis il y a eu une explosion sur les réseaux sociaux, donc ils se sont vraiment intéressés à toutes ces nouvelles médecines, se sont occupés aussi, ça les a intéressés, du coup...
Et puis c'est vrai que là, on est dans un contexte, un climat un peu plus stressant qu'il y a quelques années.
Oui, on essaye de gérer notre stress au mieux, comme on peut, et c'est vrai que nous, en tant que naturopathe, c'est quelque chose sur lequel on peut agir.
Alors justement, vous êtes naturopathe, c'est quoi exactement un naturopathe ?
Alors un naturopathe, il va aider son client à avoir une meilleure hygiène de vie. Et pour cela, il va s'appuyer sur 4 piliers. Donc, la nutrition, la gestion du stress, le sommeil et l'activité physique.
Et les 4 sont liés ?
Les quatre sont liés, ben c'est sûr, parce que quand on mange mieux, on dort mieux.
Oui.
Et un naturopathe a toujours une approche holistique de l'individu, c'est-à-dire qu'il va le considérer dans
son
ensemble.
Une approche globale, quoi. Une approche globale.
Globale, le corps et l'esprit.
Sauf que vous voudriez un petit peu donner un peu plus d'éclat, le glow, d'éclat à votre profession, la rock'n'roll, j'appelle ça la rock'n'rollisée, la rock'n'rollisée, la dépoussiérée, c'est ça ?
La glamourisée ?
Pas associer la naturopathie à manger des graines ?
Pas du tout, exactement. Donc moi j'essaye d'apporter mon énergie, ma vivacité, mon dynamisme, mon background aussi, et de glamouriser ce côté, ce domaine d'activité.
D'accord, donc c'est donc la santé et le bien-être.
C'est la santé, le bien-être, le wellness à 360.
Ouais, donc vous dites que quand on est plus beau, plus belle, on est en meilleure santé.
Oui, puis on a plus le glow, on est en meilleure santé, on fait plus attention à soi, c'est un cercle vertueux.
Mm-hmm. Alors vous, évidemment, vous communiquez principalement sur votre Instagram,
oui.
Qui s'appelle Frenchy Glow.
Oui.
Oui.
Oui, oui, je communique. Ben alors, on partage mes journées, mes journées professionnelles. Donc, je communique quotidiennement. Et puis, ça va d'un actif dont je vais parler.
Et qu'est-ce qu'on voit justement sur ce...
Alors, on voit beaucoup de choses. Donc, par exemple, je vais parler. Là, j'ai parlé il y a 2-3 jours de spiruline, puisque c'est un actif qu'on recommande beaucoup à cette période de l'année. On peut faire des recettes. Je fais des lives avec des médecins, les lives avec des experts, avec des marques. Je donne beaucoup de conseils, des beauty tips, des tips de santé, des vitamines, des minéraux. Je parle beaucoup, beaucoup de nutrition. C'est très varié.
Et voilà, à côté de ça, beaucoup, je fais beaucoup de vitamine D, de magnésium.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Bah, la vitamine D, déjà, c'est une base. En fait, la vitamine D et le magnésium,
qu'on prescrit d'ailleurs nous-mêmes en médecine de ville.
Bien sûr, mais vraiment, on est très, très complémentaires avec les médecins. On n'intervient jamais dans un diagnostic médical. Ça, vraiment, on travaille vraiment main dans la main. Et j'essaye vraiment d'aller vers ça, moi, de défendre cette synergie avec les médecins. Et vitamine D, oui. Magnésium, oui. Après, le reste, c'est plus en fonction des besoins et sur consultation.
Alors, vous proposez justement, vous faites des consultations.
Oui.
Oui.
Je fais des consultations en visio, puisqu'on n'a pas besoin, en fait, d'ausculter le client. Et donc, oui, je fais des consultations quotidiennement en visio.
Donc, en one-to-one, évidemment.
En one-to-one, d'accord. Et avec un suivi personnalisé ensuite. Mm-hmm.
Vous organisez aussi des conférences ?
Oui, j'organise des conférences. Ouais. Alors, j'organise plusieurs types de conférences. J'organise des conférences en présentiel. Et donc là, encore une fois, donc j'ai des conférences qui sont ouvertes au public, que j'organise moi-même, où on fait venir des gens.
En France ou ailleurs, d'ailleurs.
En France ou ailleurs. Voilà, on a, la dernière était à Lyon, puis un petit talk à Paris. Ça peut être sous forme de masterclass, de conférences, de talk. Ouais. Et j'en organise aussi par les marques. Les marques organisent pour moi des conférences, donc je viens intervenir en tant qu'experte sur un sujet. Et j'en organise aussi dans le privé, dans des entreprises, puisqu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise se rendent compte que en mangeant mieux, en dormant mieux, en prenant un peu de vitamines et de minéraux, et ben finalement la productivité augmente. Donc ça leur plaît.
Il faut que les chefs d'entreprise aillent voir les naturopathes avant.
Oui,
conseille à leurs employés d'aller voir des naturopathes.
Alors ça, mais aussi moi quand je donne des conférences en entreprise, autant sur Instagram les gens connaissent puisqu'ils me suivent quotidiennement depuis quelques années, mais autant en entreprise ils débarquent. Donc quand je leur dis un petit déjeuner protéiné c'est bien parce que ça va sécréter de la dopamine. Ah bon, mais nous on est encore au croissant. Donc il y a du travail.
Alors justement, donc quelques exemples. Justement, vous avez des stories tous les jours. La dernière, vous parlez de quoi sur la dernière ?
Alors la dernière, on parle de konjac. Le konjac, c'est une plante en fait qui va nous permettre de faire des pâtes et du riz avec la calorie d'une carotte. Et donc hier, par exemple, on a fait des recettes. Donc le konjac, ça n'a pas beaucoup de micronutriments. C'est surtout riche en fibres. On essaye de le pimper avec des micronutriments. Et pour cela, on a fait des recettes avec une chef. On a fait des recettes festives, mais en même temps, pas très caloriques. Et voilà, et on encourage le plaisir aussi.
Ça va être compliqué pendant les fêtes de Noël de manger nature.
Alors ça va être compliqué, mais moi je ne suis pas du tout un ayatollah, c'est-à-dire que je dis aux gens de profiter et de ne pas culpabiliser. Je demande de la règle du 20-80, hein, comme sûr, tout le temps, 80% du temps on a une healthy attitude, 20% du temps on fait ce qu'on veut, mais on gère ses écarts, on ne laisse pas les kilos s'installer.
Je dis toujours d'ailleurs que le plaisir c'est aussi un médicament.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Merci beaucoup Eliane Torjman. Je rappelle, The Frenchy Glow, c'est votre Instagram.
Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.